RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Ils sont près de 120 000 en France à s'adonner à ce loisir, la chasse aux objets anciens enterrés dans le sol. Ils consacrent leur temps libre à partir à l'assaut de terrains de toute nature en espérant y trouver des pièces anciennes ou d'autres objets métalliques rattachés à l'histoire avec ou un petit H. Alors que ce soit sur les plages, dans les champs ou dans les forêts, ouvrez l'œil cet été. Mais alors que dit la loi? Que disent les archéologues sur ces trouvailles et plus largement sur ces chercheurs de trésors? Est-ce que tout le monde peut s'improviser Benjamin Guetz, le héros de Disney ou Indiana Jones? Eh ben, on va justement chercher les réponses avec nos invités. Notez que dans la seconde partie de l'émission, le lien est tout trouvé puisqu'on se mettra dans la peau des archéologues. Plusieurs associations et les musées d'ailleurs proposent des initiations à l'archéologie. C'est ce que vous entendrez à partir de 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Est-ce que vous avez dans votre famille une histoire de trésor caché? Est-ce que vous êtes fasciné par des récits de découvertes incroyables? Et puis vous-même, êtes-vous un chasseur de trésors, un amateur de recherche d'objets enfouis dans les sables ou les terrains agricoles? Enfin, pensez-vous que le patrimoine est une affaire de connaisseurs et de personnes formées, comme les archéologues? Vous avez de quoi discuter avec nous dès maintenant au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr et puis toujours dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis ».
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et comme tous les mercredis, ne la cherchez pas trop loin, elle est là, c'est Madeleine Vatel. Bonjour Madeleine.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. Je pensais que vous alliez dire que j'étais un trésor pour vous.
Mais toujours, mais je le dis tous les jours ça.
Ah oui, d'accord. Alors on va essayer de mieux comprendre aujourd'hui les enjeux autour justement de ces chasseurs au trésor. Et c'est pas un sujet léger, bien au contraire. D'abord parce qu'il ne suffit pas de faire une trouvaille incroyable, encore faut-il connaître la loi. Et puis ce qui est considéré par certains comme un loisir est décrit par d'autres comme un pillage, voire même comme du vandalisme. Ça va assez loin avec cette question: chercher, fouiller, creuser pour trouver un trésor, peut-il faire du tort à l'archéologie, voire au bien commun? Alors, que dit le droit français et que se passe-t-il pour celui qui trouve un objet de valeur? Eh bien, vous allez l'entendre, le droit en France n'est pas du tout le même que le droit anglais et cela n'est pas sans conséquences. Et puis, dans cette émission, on ne pouvait pas éluder tout l'imaginaire qui entoure ces chasses au trésor, un imaginaire cultivé, enrichi par la littérature et puis par ces histoires incroyables, surprenantes et vraies. Des récits qui traversent les siècles et qui sont toujours aussi captivants. Alors, pourquoi autant d'émotions autour des trésors? Eh bien, nous allons tenter d'y voir un peu plus clair ce matin.
Avec nos trois invités qui nous accompagnent jusqu'à 10h.
Oui, avec nous, Julien Alvarez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur des éditions du Trésor et vous êtes éditeur de la Chasse au Trésor, organisée Chasse au Trésor dans toute la France et qui s'intitule Le Trésor de l'île au crâne. Merci à Pierre-Henri Pagé qui vous a accueilli en direct depuis l'Angleterre. Sophie Vigneron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à la faculté de droit de l'université de Kent et vous êtes co-directrice du Centre du patrimoine et spécialiste du droit du patrimoine. Vous contribuez en ce moment à la deuxième édition du dictionnaire comparé du droit du patrimoine. Vous le faites avec Marie Cornu, directrice de recherche au CNRS et puis nombreux collègues européens. Cet ouvrage, il sera publié en 2024, mais on en parle déjà parce qu'il contient des définitions qui nous seront très utiles ce matin pour savoir de quoi on parle quand on utilise le mot fouille archéologique, patrimoine archéologique ou même objet archéologique. Avec nous également Didier Perrin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes détectoriste, ça veut dire que vous utilisez un détecteur de métaux. Vous êtes animateur de la chaîne YouTube Chasseurs de Trésors. Et puis, on le dit aussi, vous êtes un ancien policier. Donc, on pourra aborder toutes les thématiques avec vous. Alors, on commence parce que je voudrais tout simplement vous savoir ce que vous pensez de l'engouement des particuliers pour la chasse au trésor. Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle? Je vais commencer par vous, Didier Perrin. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, cet engouement de la chasse au trésor et de la détection de métaux, plus largement des trésors qu'on peut trouver?
Oui, on peut dire que c'est une bonne nouvelle, mais c'est difficile de parler de bonne nouvelle dans quelque chose de loisir. Hein. Pour moi, c'est pas un métier. Donc c'est difficile. Moi, je voudrais juste aborder le mot de la notion de trésor. Qu'est-ce que la notion de trésor? C'est ça qui est le plus important, en fait.
Tout à fait.
Voilà.
Alors, pour vous, un trésor, qu'est-ce que c'est? Dites-nous, à votre échelle, qu'est-ce que ça veut dire, un trésor?
Ça peut être n'importe quoi. Nous, dans notre chaîne, on est plutôt spécialisés dans les découvertes de déchets. C'est, on nous reproche souvent dans les commentaires d'avoir appelé, c'est peut-être abusé, le chasseur de trésors. En fait, 80% des découvertes, ou 80%, 90% des découvertes des objets qu'on trouve, ce sont en fait des déchets, parfois même... très récent, hein. C'est beaucoup d'aluminium, beaucoup de... N'oublions pas que nous avons eu quand même deux grosses tempêtes qui nous ont traversé la France et qui ont transporté dans des endroits improbables énormément d'objets qui se sont enfouis au cours des années dans les forêts ou dans les champs. Non, pour moi, un trésor, ça peut être un petit objet perdu quelques temps auparavant par une personne. Ça peut être un petit morceau d'un objet qu'on ne comprend pas, qu'on va essayer de remettre dans son élément. Ça peut être des objets, même agricoles, la plupart du temps c'est ce qu'on trouve, en rapport avec l'agriculture. Voilà. Mais après, la notion est différente pour chaque personne. Pour d'autres, ça sera des pièces de monnaie, pour d'autres, ça sera... militaria, comme on dit. Nous, on n'est pas trop pour ce genre de choses parce que c'est plutôt dangereux, mais sinon, la notion de trésor est très vague.
La notion de trésor et puis peut-être la façon dont on le découvre, le temps qu'on a mis pour le trouver, le groupe avec lequel on est au moment où on le découvre, ça aussi, ça doit sûrement rentrer en ligne de compte. Sophie Vigneron, pour vous, un trésor, qu'est-ce que c'est?
Alors, un trésor en droit anglais a une définition très spécifique, puisqu'en fait, c'est une catégorie particulière d'objets archéologiques. On pourrait appeler objets archéologiques tous les objets qui ont été produits il y a plus de 200, 100 ou 200 ou 300 ans. Et parmi cette grande catégorie d'objets archéologiques, on a une petite catégorie qui s'appelle trésor et qui vient aussi du mot en anglais treasure, qui vient du mot français « treasure trove », »,« trésor trouvé », en fait. C'est de l'ancien français qui a été intégré dans le droit anglais. Et donc, c'est une catégorie spécifique d'objets qui contiennent de l'or ou de l'argent, donc des métaux précieux, ou un ensemble de pièces romaines, par exemple, qui peuvent être en bronze, mais qui contient plus de 10 pièces. Donc, c'est un objet... Une catégorie spécifique qui requiert ou à laquelle est attachée une protection spécifique.
Est-ce que l'engouement pour la chasse au trésor, pour vous, c'est une bonne nouvelle? Qu'est-ce que vous répondriez à cette question?
C'est une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Déjà, en Angleterre, il y a très peu en principe, je dirais, la chasse au trésor, si on peut dire, ou la détection par métaux est autorisée. Avec l'autorisation du propriétaire du terrain, sauf sur quelques sites. Donc, on dirait qu'en principe, il y a beaucoup de détecteurs de métaux. J'ai pas le nombre en tête, mais c'est une activité très populaire, popularisée aussi par la télévision, puisqu'il y a des programmes qui s'appellent Digging Britain, par exemple, sur la BBC, qui montrent qui mettent des équipes en compétition, chacun avec un détecteur de métaux pour qu'ils trouvent plusieurs objets, et ensuite ces objets sont évalués. Leur intérêt historique est démontré, et aussi on attache une valeur économique. Alors c'est un petit peu ça aussi, c'est bien et c'est pas bien, c'est bien dans le sens où ça popularise un petit peu cette activité, ça fait découvrir l'archéologie à beaucoup de gens qui sortiraient pas de chez eux, par exemple. Donc ça, c'est assez positif. Mais l'effet négatif, c'est aussi d'attribuer une valeur économique et d'encourager des gens aussi à sortir, acheter un détecteur de métaux et puis ensuite aller dans un champ sans forcément respecter les règles, sans aussi respecter des règles basiques d'archéologie. Sans se dire où est-ce qu'ils vont chercher, comment protéger les objets. Donc ça peut être aussi assez négatif. Et ça peut aussi inciter cette idée qu'au trésor, il existe une valeur financière. Ça encourage également les gens à ne pas respecter les règles, en particulier à ne pas déclarer leur découverte et à la vendre sur eBay.
Alors, on reviendra dans le détail, justement, sur la suite, sur les différentes... Non, parce que c'est vrai que ce que vous soulevez, c'est fondamental, c'est quelle valeur on donne à ce qui est trouvé, et puis le regard de l'État sur justement ces trouvailles. On poursuit, justement, avec Julien Alvarez. Quel est pour vous le trésor? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, est-ce que vous voyez d'un bon œil cet engouement, justement?
Alors moi je distingue plusieurs catégories de trésors en fait, parce que voilà, je sais pas si les autres personnes seront d'accord, mais pour moi il y a vraiment les trésors, on va dire historiques, archéologiques, qui sont en effet un peu l'objet de ce dont on va parler un petit peu là. Je distingue également les trésors, moi je dirais légendaires, hein, donc des choses sur lesquelles absolument rien n'est avéré, enfin on est vraiment dans le mythe, dans le folklore, dans la légende. Est-ce que, alors là je vais donner quelques exemples qui vont peut-être parler, mais les trésors de pirates, les trésors des Templiers, des choses comme ça. Donc là vraiment c'est des sujets qui font rêver, c'est des sujets qui sont très intéressants d'un point de vue, il y a des livres, des films qui sont faits autour de ça, mais on est vraiment, voilà, il y a pas de véracité, on va dire, historique autour de ça. Et puis après, il y a une troisième catégorie qui est plus celle qui me concerne, moi, qui est donc en effet les chasses au trésor organisées. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait nous au sein de notre maison d'édition, où on cache un trésor quelque part en France qui doit être trouvé. Tout ça est réglementé, il n'y a pas de sujet juridique, parce que donc voilà, il y a un règlement. C'est contrôlé par un huissier, mais on sort de tout ça. Si on revient sur le sujet qui nous intéresse un petit peu plus, donc le trésor historique, il y a une définition juridique, je vais me permettre de la donner, il y a une ligne dans le code civil qui date de 1803, et donc qui dit que le trésor est toute chose cachée ou enfouie, sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et la dernière partie est importante, et qui est découverte par le pur effet du hasard. Pur effet du hasard, et donc c'est là où il y a un grand débat juridique. Est-ce que le détecteur permet de découvrir quelque chose par le pur effet du hasard? A priori, pas toujours. A priori, non. Même.
Didier Perrin, est-ce que le détecteur force un petit peu trop le hasard?
Ça dépend ce qu'il cherche. On est toujours dans la même... Ben oui, si on est en train de rechercher, par exemple, dans un champ, et ça m'est déjà arrivé, hein, de rechercher pour des paysans des barres métalliques qui ont été perdues, même parfois par les grands-parents, et qui ont tendance à crever des pneus qui coûtent 3 000 ou 4 000 euros. Pour eux, c'est vital qu'on retrouve cette barre. Donc si, en trouvant cette barre, on passe à côté d'un trésor et qu'on le découvre, là, on peut dire que c'est aussi par hasard. C'est pas volontairement qu'on va... Oui, le moyen est de détecter, c'est un moyen de trouver un métal, enfin quelque chose de métallique. Maintenant, si on tombe, plutôt que de trouver, je sais pas moi, une barre de fer, on va trouver de l'or, ça c'est le hasard.
Alors si là, vous le soulignez, si... Oui, et voilà, justement, là se situe le point névralgique, enfin en tout cas le point qui fait problème, c'est-à-dire est-ce que trouver et chercher, c'est la même chose? La question du hasard, elle est très importante, parce que c'est justement le point de la loi qui pose question. Didier Perrin, est-ce que aujourd'hui c'est légal d'utiliser un détecteur de métaux? Quelle est la limite?
Ah ben là, c'est en train de bouger dans tous les sens. Il y a des jugements qui peuvent servir de jurisprudence en ce moment. Je trouve que on est en train de s'enfermer dans une espèce de schizophrénie concernant cette recherche. On veut interdire carrément un loisir.
Parce que, ouais, au travers parce que aujourd'hui, pour nos auditeurs qu'on comprenne bien, est-ce que c'est possible, c'est autorisé, c'est encouragé, c'est interdit?
Il n'y a rien qui interdit d'avoir un détecteur. Il n'y a rien qui interdit d'avoir un détecteur, rien qui n'interdit aujourd'hui, je le répète encore aujourd'hui. Et nous, on aimerait arriver vers la pratique anglaise, qui est beaucoup plus démocratique. Aujourd'hui, rien n'interdit d'avoir un détecteur et de rechercher un objet que nous avons perdu. Moi, je
En fait, si ça continue,
on va nous interdire... Alors. Si on continue, ça va être encore, interdit de rechercher un objet, je sais pas moi, une médaille qu'on a perdue dans notre propre jardin. C'est ce qui est en train d'arriver, quoi.
Julien Alvarez, vous souhaitiez compléter.
Ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, aujourd'hui, c'est absolument pas donc la détention qui est interdite. En effet, c'est complètement en vente libre, mais c'est l'utilisation qui en est faite, qui est assez restreinte et réglementée, comme l'indiquait monsieur. Et en effet, c'est oui, les archéologues sont vent debout contre tous les usages qui peuvent être faits sur des recherches de sujets historiques, car ils considèrent que ça, au-delà du pillage éventuel du patrimoine, que ça détruit même un petit peu l'environnement, la compréhension de tout ça. Mmh. Et c'est vrai qu'en Angleterre, c'est beaucoup plus libéral là-dessus. Il y a des accords qui peuvent être passés, il y a des règles de partage, mais on reviendra là-dessus, j'imagine, après.
Et oui, justement, parce qu'on a une heure ce matin pour évoquer ce loisir, hein, la chasse aux objets anciens, aux trésors. Vous mettez le terme que vous voulez derrière tout cela. Et vous avez la parole. Est-ce que vous avez dans votre famille une histoire de trésor caché? Est-ce que vous êtes fasciné par ces récits de découvertes incroyables? Et puis vous-même, peut-être que vous êtes un chasseur de trésors, amateur, hein, bien sûr, un amateur de recherche d'objets enfouis dans le sable ou dans les terrains agricoles. Venez témoigner au 04 72 38 20 23. Madeleine, on continue avec nos trois invités ce matin, Julien Alvarez, Sophie Vigneron et Didier Perrin.
Alors justement, Didier Perrin, racontez-nous en quoi consiste pour vous vos recherches, votre plaisir et comment vous pratiquez justement le détectorisme.
On le fait de façon conviviale déjà entre nous, parce que sur notre chaîne nous sommes deux et on a plutôt des rapports un peu plutôt amusants. On essaye de pas faire de la recherche quelque chose de, justement, vous parliez tout à l'heure de monétaire, etc. Nous, c'est pas notre but du tout. Notre but, c'est de créer un engouement pour ce qu'on a dans notre sol, pour faire découvrir aux gens qu'ils ont la possibilité d'accéder aussi à une petite histoire autour d'eux, dans ce sol. Donc pour nous, c'est plutôt, apprécier de découvrir un petit objet qui représente rien, mais on va lui créer une petite histoire. On va essayer je pense par exemple à des grelots. Moi, j'ai créé sur la chaîne, on a une vidéo sur un grelot et raconter l'histoire d'un petit grelot qui peut être un grelot de chasse, mais qui peut aussi partir sur d'autres choses. Donc, le but, c'est de s'amuser, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens se réapproprient leur histoire. Parce que quand même, c'est souvent en travers d'objets, d'ancêtres ou de personnel et donc d'essayer de se réapproprier cette petite histoire, de les faire revenir vers l'histoire de France, quoi. L'histoire des gens qui sont passés avant eux. C'est tout ça qui est le plus intéressant pour nous, quoi.
Oui, vous faites des recherches quand vous trouvez un élément, vous essayez de voir qu'est-ce qui s'est passé ici. Est-ce que vous par exemple, vous appelez des historiens, vous rendez au cadastre, comment est-ce que vous étoffez l'histoire autour d'un objet?
C'est ça, mais on fait jamais l'inverse. C'est-à-dire que moi, je me refuse et j'invite les gens qui font de la détection à ne pas le faire. C'est-à-dire ne pas aller sur des cadastres anciens pour essayer de voir ce qu'il y avait avant. Ça doit être l'objet d'un hasard. Et je veux conserver ce côté hasard. L'avantage de la détection, c'est que quand vous avez le détecteur qui sonne, vous êtes sûr de trouver quelque chose. C'est comme si on avait un grattage et qu'on est sûr de gagner au grattage. Après, ce que vous gagnez, c'est la possibilité de rentrer en contact avec le dernier objet perdu, il y a longtemps ou pas longtemps, hein, ça dépend. Et vous créez un lien avec cet objet, et après, oui, effectivement, vous pouvez essayer de comprendre pourquoi il est là. Des fois même, il y a des choses qui sont un peu bizarres, et en tirer une petite histoire, essayer de rechercher. Des fois, c'est des objets mystérieux, à quoi ça peut être correspondre, des objets qu'on n'utilise plus. C'est ça, la recherche, elle vient après, mais pas avant, surtout pas avant. Mmh.
Alors, pour comprendre la différence avec ce qui se passe en Angleterre, je voudrais que vous nous redisiez ce qui se passe en France quand vous trouvez un objet. Alors, vous expliquez qu'il y a une valeur affective personnelle, et puis il peut aussi y avoir une valeur pour le patrimoine, une valeur étatique. Qu'est-ce qui se passe quand vous trouvez un objet qui, d'après vous, dépasse largement la petite histoire du jardin dans lequel il est trouvé?
Là, c'est le gros souci, c'est que à force de créer, je vais le dire les choses telles que je le ressens, hein, à force de créer la suspicion sur les détectoristes et de vouloir en faire des pilleurs, on arrive à l'effet inverse, c'est-à-dire que les gens qui trouvent quelque chose d'intéressant pour l'archéologie, intéressant pour l'histoire, avec peut-être même parfois un grand H, ont tendance à garder avec pour eux cette information et ne la transmettent pas. Parce que derrière, il va se passer un phénomène inimaginable. Hein. C'est-à-dire qu'on va venir, même si d'ailleurs la personne l'a trouvé de la façon la plus, sans détecteur, et la façon la plus hasardeuse possible, eh bien, il va être, c'est l'esprit français, considéré comme étant presque coupable, avant même d'avoir pu expliquer ce qu'il en est. Et donc ce sentiment-là fait que aujourd'hui, bon nombre d'informations, et je le regrette bien, mais d'informations qui sont en possession de détectoristes ne sont pas transmises aux archéologues. Moi, je suis le premier à le regretter. Dans mon métier ancien policier, j'aurais bien aimé aussi qu'on puisse venir nous voir en disant voilà, on a trouvé ça, et nous faire le lien avec l'archéologie ou guider les gens vers les archéologues. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. La suspicion est telle que voilà, les gens gardent ça pour eux. Et je regrette beaucoup. Je pense que les archéologues seraient intéressés d'en savoir plus.
Sophie Vigneron, vous voulez réagir?
Voilà.
Oui, parce qu'en fait, pour éviter exactement ce genre de situation que Monsieur Perrin décrit, en Angleterre, il y a un code de déontologie qui encourage les détectoristes à inscrire, à enregistrer leur découverte. Donc en fait, c'est tous les objets archéologiques qui ne tombent pas dans la catégorie spéciale de trésors dont j'ai parlé plus tôt. Donc, sont déclarés, et il y a un site internet, une base de données qui est gérée par le British Museum, sur laquelle aujourd'hui il y a plus d'1,5 million d'objets qui ont été rapportés, découverts par des détecteurs de métaux. Donc, ce qui contribue justement à la connaissance, à l'histoire, et il n'y a aucune sanction, puisqu'en fait, c'est légal, hein, à partir du moment où il y a quand même l'autorisation, l'accord du propriétaire du terrain. On ne peut pas utiliser un détecteur de métal n'importe où. Mais une fois qu'on a l'autorisation du propriétaire de terrain, quand on découvre quelque chose, on peut ensuite aller le faire enregistrer dans cette base de données et ensuite le conserver. Parce que ce n'est pas forcément un objet d'une grande valeur économique ou d'une grande valeur historique, mais ça contribue petit à petit à savoir où les objets sont trouvés. Ça peut contribuer à découvrir une pattern. Un mouvement, enfin,
un chemin,
oui,
un sentier,
un sentier, oui, vers une piste.
Voilà, donc si beaucoup d'objets de la même catégorie sont trouvés dans un même endroit, en fait, on va arriver à découvrir
un modus operandi à comprendre.
Julien, justement, vous souhaitiez compléter ses propos sur le treasure trove. J'ai adoré cette expression, le treasure trove.
Non,
alors,
mais voilà,
qu'est-ce qu'on peut ajouter ?
Je voulais me faire un peu le porte-parole des archéologues qui ne sont pas représentés ici, même si je ne suis pas forcément toujours d'accord avec tout. Mais en effet, ce que je crois les archéologues disent là-dessus, c'est qu'il y a deux choses. Il y a l'objet en tant que tel, en effet, qui apporte un élément historique, et donc c'est important en effet qu'il soit pas détruit, qu'il soit pas conservé, qu'il soit pas recellé derrière, etc. Et puis il y a aussi le contexte dans lequel il est trouvé, et ça c'est vrai que je crois que les archéologues appuient pas mal là-dessus en disant que si derrière on n'arrive pas à situer l'objet à un endroit bien précis, comprendre où il était, pourquoi il était, qu'est-ce qu'il y avait autour de lui, etc., on détruit aussi beaucoup d'éléments intéressants pour eux. C'est vrai qu'il y a des archéologues qui passent vraiment des centaines d'heures à dépoussiérer avec une petite brosse. Enfin, on a un peu tous l'image d'Épinal de l'archéologue à quatre pattes en train de dépoussiérer son chantier. Mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Et ils sont, et pour eux, je crois que c'est important d'avoir ça aussi. Et donc, c'est vrai qu'ils ont toujours peur que le détectoriste ou le chercheur de trésors amateur, détruise toutes ces éléments de preuve, de historique. Et je crois que ça, c'est un élément important à souligner, voilà, pour leur faire un peu leur porte-voix ou leur porte-parole aujourd'hui.
Didier Perrin, vous ne travaillez pas avec une brosse à dents, j'ai l'impression.
Non. Non, on est avec une pelle, mais là aussi, ça fait partie un peu de la légende, parce que je réagis là-dessus, parce que c'est un peu gros ce que disent les archéologues là-dessus, c'est que franchement, dans un champ de labour qui est labouré depuis des décennies, les traces autour permettant de comprendre pourquoi l'objet est là semblent être un petit peu compromises, hein. Donc c'est un peu trop facile d'aller là-dessus. Ceci étant, je suis le premier à dire que si on formait les détectoristes et s'ils étaient encadrés par des archéologues, ça serait beaucoup mieux. Et lorsqu'ils découvriraient ce genre d'objet, ils feraient encore plus attention s'ils étaient formés, en quelque sorte formés. Un peu comme les chasseurs, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est avoir une carte de détection. Je ne sais pas comment en Angleterre il fonctionne, mais ça serait bien d'avoir ce genre de relation avec les archéologues. Et aujourd'hui, les détectoristes et les archéologues se détestent cordialement. Il faut le savoir. Il n'y a aucun dialogue possible avec eux. Enfin, en tout cas, nous, on a essayé à plusieurs reprises de rentrer en contact avec des archéologues pour éventuellement, même au travers de notre chaîne, transmettre un certain nombre d'informations qui seraient susceptibles de vouloir voir apparaître. Eh bien, pas du tout. Il n'y a pas de contact possible. Et ça, je regrette beaucoup, parce que ce n'est pas la meilleure des façons de faire progresser la chose.
Et on salue le...
Et bon, on est loin du rêve. On est loin du rêve.
Attendez, on va rêver avec Julien. Il va nous ramener dans des histoires incroyables.
Parce que moi, ce que je vois, c'est la détection, c'est quand même quelque chose qui est, c'est une détection qui doit être du loisir, d'amusement, enfin une espèce de voilà, de prise de contact avec, parce que on marche beaucoup. Hein, nous, on est arrivé à faire des 14 kilomètres rien qu'en faisant de la détection, et c'est un exercice quand même aussi, hein, et ça permet aux gens de sortir, de s'aérer un peu. Voilà.
C'est vrai que c'est ce côté-là aussi qu'il faut voir.
Julien Alvarez,
si je peux apporter une petite précision. Oui, merci. C'est en effet le trésor. On aurait pu aussi évoquer ces petits éléments. Il y a quand même deux types de trésors. Un trésor, c'est vrai qu'on retrouve quelque chose en général qui est caché à la vue de tous, hein, donc enfoui, enterré. Et il y a un peu de deux natures. C'est-à-dire pourquoi il y a cet objet qui est là. Il y a deux raisons à ça. C'est soit une personne en fait l'a enterré à un moment donné et ensuite a disparu, décès, une guerre, enfin voilà, il a oublié qu'elle avait enterré ce trésor ici, enfin cet élément, soit ensuite elle l'a perdu. Donc c'est un peu les deux catégories. Alors quand elle l'a perdu, ça peut être quelque chose qui vaut pas grand-chose en effet, ou quelque chose qui vaut un petit peu plus. Et c'est vrai que c'est un peu deux catégories distinctes. Voilà, sur la première, ils peuvent même laisser un écrit, enfin, il peut y avoir des éléments un petit peu plus tangibles. Et sur la deuxième, on rejoint, et je comprends ce que dit monsieur, hein, c'est vrai qu'on retrouve un petit bouton d'un vêtement ou des choses comme ça. C'est pas quelque chose qui a une valeur importante, je pense, en effet, mais c'est un petit bout d'histoire, c'est un voyage dans le temps. On a l'impression d'être un peu dans la petite boîte aux souvenirs d'Amélie Poulain. Enfin, c'est, moi, je comprends un petit peu tout la partie un petit peu rêve des détectoristes aussi. Hein, je comprends. Et c'est vrai qu'on les voit, il y a beaucoup de passionnés. Il y a beaucoup de gens qui connaissent très, très bien leur histoire locale, qui lisent beaucoup de choses dessus. Et et je comprends la passion et je comprends, en fait, je comprends les deux points de vue. C'est-à-dire chacun.
Oui.
Et je peux confirmer en regardant toutes les vidéos de Didier Perrin et son copilote Alexis, chasseur de trésors, je confirme qu'il y a beaucoup de passion et beaucoup d'humour également. On va marquer une petite pause dans Je pense donc j'agis et vous en profitez pour nous appeler, hein, pour nous parler de la chasse au trésor. Est-ce que vous pensez déjà que le patrimoine, c'est une affaire de connaisseurs et de personnes formées comme les archéologues, ou alors tout le monde peut un peu s'approprier ça avec un petit détecteur de métaux? Vous nous appelez au 04 72 38 20 23, bien sûr, si vous êtes un chasseur de trésors, venez témoigner. On vous accueille avec grand plaisir. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Melchior Gormand, Madeleine Vatel.
Allez, tous vos appels au 04 72 38 20 23 ou vos messages par mail à direct@rcf.fr. Le temps d'écouter une chanson d'Alexis et Carlier tout de suite dans Je pense, donc j'agis.
Moi, j'aime courir monts et merveilles, mais une fois sur les cimes, le ciel peut me tomber sur la tête. Je donne tout ce que j'ai, je donne tout ce que j'ai. Parfois la passion déraille sans qu'on ose regarder dans les failles. On saura
regarder dans les failles pour voir ce qui nous fait défaut, ce qu'on vaut.
À nouveau, c'était Alexis Carlier sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Melchior Gormand, Madeleine Vatel.
Et nous parlons des détectoristes, des chasseurs de trésors qui, avec les beaux jours, sont de plus en plus nombreux dans les forêts, sur les plages évidemment. Et vous en témoignez d'ailleurs au 04 72 38 20 23. Madeleine, on continue avec nos trois invités ce matin. Julien Alvarez, fondateur des éditions du Trésor et éditeur de La Chasse au Trésor. Sophie Vigneron, depuis l'Angleterre, professeure à la faculté de droit de l'université de Kent et co-directrice du Centre de patrimoine et spécialiste du droit du patrimoine. Et puis Didier Perrin, détectoriste et animateur d'une chaîne YouTube qui s'appelle Chasseur de Trésors.
Oui, mais simplement, peut-être pour boucler l'aspect légal, puisqu'on en parle depuis le début, est-ce que c'est autorisé, interdit, qu'est-ce que ça a changé en Angleterre? La question, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on met ces deux archéologies, entre guillemets, sur le même plan? C'est-à-dire que c'est difficile de comprendre pourquoi est-ce que le loisir et l'aspect très professionnel de l'archéologie se retrouvent. Quand on vous écoute, Didier Perrin, on comprend que vous n'êtes pas non plus, vous ne vous rendez pas non plus sur des sites précisément archéologiques, vous n'êtes pas parfois plus près d'un particulier que véritablement dans un lieu où on pourrait trouver quelque chose d'incroyable. Donc pourquoi est-ce que la loi ne s'est pas ajustée? Sophie Vigneron, quelle a été la démarche anglaise pour justement finir par dire « Attendez, là on a des choses différentes et puis on va mettre les chercheurs de notre côté d'une certaine manière
» bon, c'est une question assez complexe en fait, parce qu'il faut aussi remonter ou mettre... prendre en considération le développement du droit du patrimoine en Angleterre et la volonté très forte de respecter la propriété privée en particulier. Et ça, c'est une caractéristique du droit anglais, c'est de ne pas porter atteinte à la propriété privée. Donc de ne pas aussi réglementer ce qu'on pourrait trouver sur le terrain d'un propriétaire privé. Ça vient aussi de là, cette volonté de ne pas... de ne pas limiter les droits du propriétaire. Et donc, en contre-coup, si vous voulez, c'est aussi une façon de ne pas contrôler les détecteurs de métaux, c'est aussi ne pas contrôler ce que font les propriétaires avec les choses qu'ils trouvent sur leur propriété. Donc on a ce développement historique, cette volonté de privilégier les droits du propriétaire, si vous privé, par rapport à la protection du patrimoine. Ça, c'est un élément historique. Et aussi, la protection du treasure trove, c'était une prérogative royale. Ça vient du droit féodal, hein, treasure trove, trésor trouvé. Et aussi, donc, une volonté de ne pas augmenter, si vous voulez, cette prérogative royale, avec la conséquence que certains trésors qui ont été trouvés au début même du XXe siècle, je pense au trésor de Sutton Hoo, qui est en fait un trésor, c'était un roi anglo-saxon qui a été enterré avec dans un bateau et avec son sabre, donc tous ses éléments de son casque, son épée, etc., qui était en or. Et il a été enterré dans un bateau qui a ensuite été recouvert de terre, donc ça faisait comme un petit monticule. Et quand cette tombe, c'est une tombe funéraire, a été trouvée, en fait, le monument dépendait de la propriété du terrain. Heureusement, d'une certaine façon, cette propriétaire a donné l'ensemble des biens au British Museum. Mais si elle n'avait pas donné cette collection, ces biens au British Museum, elle aurait pu choisir de les vendre. Et là, toute la collection aurait été dispersée. On aurait perdu vraiment une somme importante de connaissances archéologiques. Je crois qu'on ne sait toujours pas qui est vraiment ce roi, mais enfin, on a quand même ces objets, on a pu les étudier. Alors que s'il n'y avait pas eu la volonté de cette propriétaire, le trésor aurait été perdu. Et pourquoi ce n'était pas un trésor à l'époque? Parce qu'en fait, ce n'était pas un bien qui était perdu ou volontairement caché. C'était une tombe, donc on n'avait pas l'intention de retrouver ces biens. Et donc ça ne correspondait pas à la définition du trésor. Depuis, en 1996, il y a une réforme qui inclut maintenant ce genre de trésor. Mais bon, c'est cette volonté, donc, si vous voulez, donc de limiter, de protéger les droits du propriétaire. La protection du patrimoine culturel en général est quand même un petit peu moins développée en Angleterre qu'elle ne l'est en France.
Mais ce qu'on entend aussi derrière, c'est la question du recel, c'est le fait aussi qu'on retrouve sur eBay, vous en parliez, ou sur le marché des objets issus de fouilles ou de trouvailles. Didier Perrin, est-ce que c'est quelque chose qui est explicitement évoqué dans vos recherches? Qu'est-ce qu'on fait si on a trouvé vraiment quelque chose? Est-ce que certains de vos contemporains mettent effectivement sur Internet ces objets à vendre, ou ça c'est aussi, ça fait partie
Ça, je suppose. Ça, alors là, la nature humaine est telle que j'ai aucun
Que dit l'ancien là-dessus. Policier
L'ancien policier condamne. C'est aussi notre façon de. C'est la pédagogie qu'on a dans notre chaîne, c'est d'en parler aussi, hein, ouvertement. Mais je veux quand même aussi montrer que la loi française a ses limites, puisqu'elle interdit. Il y a bon nombre de détectoristes, surtout des anciens, qui ont un patrimoine à force de détecter. Alors. Il faut savoir que lorsqu'on trouve un objet, et nous on s'y attache énormément, c'est que c'est le propriétaire du terrain qui doit recevoir l'objet. C'est pas le détectoriste qui doit le garder. Ça c'est pas bien. Il faut remettre. C'est l'histoire de la terre. Donc la terre appartient au propriétaire. Elle appartient pas à celui qui trouve l'objet. Après, si c'est un objet, il y a les textes de loi. C'est un objet qui a de la valeur. C'est des textes de loi qui ont été sacrément modifiés depuis 2016 d'ailleurs. Mais en l'occurrence, nous, on s'attache à ce que le propriétaire garde l'objet. Maintenant, je le dis aussi, hein, bon nombre de ces détectoristes qui ont gardé des objets, mais avec l'accord du propriétaire, parce que certains propriétaires disent ben non, je m'en fiche, vous gardez ça, moi, j'en ai rien à faire. Eh bien, aimerait bien les remettre à des musées. Et aujourd'hui, on ne peut pas le faire. C'est interdit de remettre. C'est interdit aux musées, à des musées locaux, de recevoir des objets dont ils ne connaissent pas la source. Voilà. Et ça, c'est quelque chose. Je crois qu'en Angleterre, ça n'existe pas. Ça, on peut le faire, ça. Mmh. Il y a d'autres pays aussi qui sont en train de bouger. Hein. Je pense à la Norvège, la Hollande, la Belgique qui commence aussi à bouger un petit peu sur ce genre de choses. Alors, je regrette beaucoup parce que. L'histoire locale est aussi importante et que des détectoristes qui ont l'amour de leur terre aimeraient bien remettre à des musées locaux des objets qui ont été trouvés comme ça au hasard, parfois dans des forêts.
Julien Alvarez, dans les récits que vous publiez dans les éditions du Trésor, est-ce que finalement ce sont plus des histoires de hasard, ou est-ce que ce sont, je rappelle, ce sont des histoires vraies, ou est-ce que ce sont des archéologues qui sont à l'origine de ces trésors découverts? Qu'est-ce que vous constatez, vous, dans ces fabuleuses histoires que vous publiez?
Alors, il y a plein de choses un peu. Enfin, en France, déjà, il y a assez peu de choses, parce qu'en effet, c'est assez délimité, et c'est vraiment chasse gardée des organismes archéologiques et historiques, et voilà, pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Donc, dans les différents chasseurs de trésors ou aventuriers que moi j'avais pu rencontrer ou qui ont pu être édités par les éditions de trésors, on parle pas mal de choses plutôt à l'étranger, dans lequel, en effet, parfois des accords sont faits avec les gouvernements, ben, dans lequel, voilà, il y a une flexibilité plus forte sur ces sujets-là. Typiquement, on a sur la recherche de trésors sous-marins, recherche d'épaves, par exemple, qui a encore une autre réglementation. Donc, on a édité, en effet, une personne belge qui s'appelle Robert Stenuit, qui a trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de trésors d'épaves sous-marins, notamment de la Grande Armada qui avait coulé au large des côtes anglaises et sur lequel ils avaient fait un accord avec, en effet, le gouvernement anglais. Donc, il y avait une répartition. Ils ont trouvé un trésor dans l'épave de cette flotte espagnole et il y a une répartition. En France, ça, par exemple, ça serait impossible parce que la loi ne le permet pas. Donc voilà, après c'est vrai qu'il y a cet éternel débat de est-ce qu'il faut mieux être un peu plus libéraux comme les Américains ou les Anglais, ce qui permet en effet de permettre à des gens de trouver et de partager leurs découvertes, ou est-ce qu'il faut être extrêmement réglementé comme en France, ce qui permet d'éviter en effet des abus, mais ce qui d'un autre côté, on passe à côté de certaines choses. C'est un vrai débat, mais c'est limite un débat de société plus que, enfin qui dépasse quasiment le sujet du trésor, quoi.
Alors, Julien Alvarez, revenons au trésor. Quelle est la dernière publication dans votre collection? Quel est le récit qui a retenu votre attention?
Alors, c'est vrai que nous, aux éditions du Trésor, on aimait bien, enfin, on a été fascinés par ces sujets de trésor historique, et notamment ces légendes. On a voulu savoir un petit peu ce qui était vrai, ce qui relevait un petit peu de la légende. C'est vrai qu'on a tous un peu en tête ces histoires de trésors pirates, de la carte au trésor enfouie, lancée dans la foule. En France, il y a un ou deux trésors assez connus, hein. Il y a le trésor de Rennes-le-Château, dans lequel il y a eu beaucoup de légendes. C'est un petit village de la France. Alors, pareil, qui a connu un peu, quand on le visite, il y a marqué « fouille interdite » sur des panneaux dans toute la ville, parce que les gens, je pense, ont un petit peu abusé aussi sur la base d'éléments qui étaient d'ailleurs pas forcément très très étayés d'un point de vue historique. Hein. Dans les autres choses, il y a le trésor de la Buse, qui était un pirate qui officiait dans l'océan Indien, autour de l'île de la Réunion. La même chose, on n'est pas du tout certain qu'il y ait des éléments historiques à la base, mais il y a une légende assez incroyable. Le jour de sa pendaison, ce pirate aurait lancé dans la foule un petit papier avec des éléments cryptés en criant « Mon trésor, à qui saura le prendre ?» Et puis voilà, et puis deux, trois siècles après, des gens sont encore en train d'essayer de chercher dans des ravines de l'île de la Réunion ce trésor légendaire et probablement qui n'existe pas peut-être. Mais donc il y a plein de belles histoires comme celle-ci. Donc nous on aime bien ça parce que c'est vrai que ça fait rêver. Et fort de ça, c'est vrai que nous on a décidé en plus. Alors là on rentre dans un autre domaine. Hein, quand je parlais de catégorie de trésor, d'organiser nous une chasse au trésor justement pour pouvoir mettre vraiment à la fois faire rêver les gens et être complètement dans les coups de la réglementation. Donc on cache un coffre quelque part en France. On espère que nos amis détectoristes le trouveront pas. En tout cas, on fait en sorte que ça soit pas le cas. Et donc on écrit un livre avec des énigmes, et la résolution de ces énigmes permet de trouver ce coffre et ensuite doit être échangé contre un véritable trésor qui est une pièce de joaillerie d'orfèvrerie qu'on fait fabriquer. Donc le dernier trésor qu'on vient d'organiser ainsi, qui date d'il y a quelques jours, quelques semaines, c'est le trésor de l'île au crâne. Donc en fait, on peut gagner un crâne de cristal d'une valeur de 50 000 euros. Il fait 11 kilos. Il est serti d'or et de pierres précieuses. Et donc voilà, là on est vraiment dans du jeu, hein, dans de la chasse organisée. Donc on n'est pas du tout sur ces sujets archéologiques. Le trésor, c'est nous qui l'avons conçu, on l'a fait fabriquer, on l'a financé, et derrière c'est vraiment on est vraiment dans l'île au trésor de Stevenson, mais façon ludique et organisée.
Donc vous savez, vous, où il est, ce trésor?
Alors il n'y a qu'une personne, non mais c'est une très bonne question, il y a une seule personne, et c'est le mystérieux auteur des énigmes, ce n'est même pas moi. Et donc seul l'auteur des énigmes a connaissance à la fois des solutions et de lieux où est enterré ce trésor.
Bon, voilà. Ça ne sert à rien de vous kidnapper à la sortie des studios. Vous êtes aussi un chouettiste.
Racontez-nous. La chouette d'or.
Alors c'est chouette, absolument. Alors c'est chouetteur et pas chouettiste. Mais,
ah oui, chouetteur.
La chouette d'or, en effet, c'est un peu l'ancêtre de ces chasses au trésor organisées. Elle a été lancée il y a 30 ans et toujours pas trouvée. Donc c'est vrai qu'elle est en passe de devenir peut-être un trésor légendaire qui sera peut-être trouvé. Peut-être par un de nos amis détectoristes, voilà. Donc le principe c'était le même, hein, c'était cette chasse était elle-même inspirée d'un précédent anglais qui s'appelait Masquerade, qui avait été lancé en 1978. Et donc en fait c'est toujours ce même principe, cacher un trésor, rédiger un livre avec des énigmes, et ensuite la résolution permet de trouver ce trésor. Donc la chouette d'or après 30 ans n'a toujours pas été trouvée, donc quelque part il y a peut-être un petit biais dans la conception, mais c'est vrai que c'est un élément qui fait toujours rêver. Il y a beaucoup de chercheurs, de chouetteurs ou de chouettistes, comme vous voulez Madeleine, qui continuent à le chercher.
Mais alors qu'est-ce qui d'après vous fascine tous ceux qui se lancent dans ces recherches, tous ceux qui vont passer des heures leurs vacances, qui vont acheter des livres sur ces histoires, qui vont se lancer dans tous les concours, qu'est-ce qui fascine? Pourquoi est-ce que on a envie de chercher ces trésors? Je suis sûre que nos auditeurs vont commencer à chercher la chouette quelque part.
Mais je pense que ça soit les chasses au trésor organisées ou celles qu'on évoquait avant, je pense qu'il y a vraiment un dénominateur commun, c'est une petite part de rêve, hein, c'est un petit bout de, voilà, on a tous un petit côté enfant en nous, je pense. Alors ça fait appel après à des ressorts personnels, hein, c'est propre à chacun, je pense, mais c'est vrai que c'est vraiment C'est ce que disait monsieur, c'est vrai que c'était assez juste, la petite voiture perdue au fond du jardin, ou le trésor, c'est pas forcément quelque chose qui a une valeur pécuniaire, enfin voilà, en valeur en euros, mais c'est quelque chose, c'est un petit bout de rêve. Donc, et je pense que les gens, plus voilà, en ce moment, dans des périodes un petit peu compliquées comme on les vit, ont besoin de ça, ont besoin de s'échapper, de rêver. Et la chasse au trésor est un moyen, voilà, est un beau moyen pour faire ça. Ça fait appel en plus à des ressorts de l'enfance, il y a des références. Il y a Indiana Jones qui va ressortir dans pas longtemps, voilà, les l'île au trésor, enfin bref, il y a plein de références. Picsou était un grand chercheur de trésors, hein, voilà.
Alors justement, on a envie de terminer cette émission avec le récit pour chacun d'entre vous d'une histoire incroyable, une histoire qui vous a fasciné, une histoire de trésor évidemment. Julien Alvarez, quelle est l'histoire que vous avez retenue, qui vous a fasciné et dont vous vous souvenez encore?
Ah, moi, je suis assez fasciné par tout ce qui est l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. C'est vrai que donc tout ce qui est la civilisation inca. Les conquistadors qui étaient assoiffés d'or, qui sont arrivés, qui ont massacré ces peuples pour rechercher de l'or. Mais c'est vrai que bon, ça, c'est pas la partie sympathique. Mais derrière, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de belles histoires et de légendes. Enfin, là pour le coup, avec une base historique de ces fabrications, de ces pièces d'orfèvrerie en or qui ont été cachées. Et tout ça dans un contexte historique, voilà, 5 siècles en arrière. C'est, moi, je trouve ça fascinant. Et donc relire des textes de l'époque, c'est, ouais, moi ça me fascine. Donc voilà, l'Amérique du Sud, la conquête des Amériques, c'est quelque chose, moi, que je trouve fascinant.
Didier Perrin, dans toutes vos recherches, quelle est l'histoire qui retiendra votre attention, de laquelle vous vous souvenez?
Il y en a tellement. Franchement, parce que c'est ça qui est super. C'est moi, depuis 7 ans que je fais ça. Je sais pas, j'ai plein d'histoires amusantes.
Il faut en choisir une.
Il faut en choisir une, hein. C'est difficile. Non, je dirais peut-être le premier objet qu'on a trouvé d'ailleurs sur ma propriété et qui était assez symptomatique de la façon dont on travaille dans notre avec mon coéquipier. C'est un objet qu'il a trouvé, mais qu'il a finalement dit, oh, bah, c'est un déchet. Il a commencé à vouloir le jeter. Et je dis, on va aller voir. Il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce que t'as dans les mains. Et en fait, il s'avère qu'en grattant, on avait le bout d'un bougeoir, une espèce de la partie qui reçoit la bougie. Hein. Donc cette partie-là qui était travaillée. La terre recouvrait tous les trucs, mais bon, c'est un objet qui avait été jeté, parce qu'à l'époque, il faut savoir, c'est ça aussi, c'est que il n'y a pas de déchetterie, on va jeter dans un endroit sur les propriétés, il y a un endroit spécifique où on va jeter traditionnellement les objets qui sont cassés et qui nous plaisent beaucoup, parce qu'on retrouve là des objets usuels qui sont souvent cassés, mais qui ont une histoire à raconter. Et là, c'était avec un petit personnage qui tenait. Alors, je l'ai en bas, hein, je l'ai gardé, mais je pourrais le montrer à l'image. Mais c'est un petit objet avec un personnage qui tient cet embout là et qui est habillé de façon 18e siècle. Voilà. C'est un bougeoir en bronze probablement, mais qui avait cassé. Quoi. On voit bien la cassure. Voilà, c'est le premier objet vraiment sur lequel moi j'ai trouvé un intérêt. On va dire historique pour ma maison.
Voilà. Mmh. C'est chouette.
Sophie, ouais. Oui, chouette. Ah, chouette, alors. Alors, Sophie Gimiron, vous aussi, dans vos recherches, sûrement, vous avez pu lire des histoires peut-être assez improbables également sur des trésors. Même ça peut être des petits trésors aussi, comme nous l'ont répété nos deux interlocuteurs.
Bon, les histoires que je lis en général sont plutôt des affaires de justice, donc pas vraiment des romans. Mais je vais quand même attirer l'attention sur une décision, par exemple, de 2020, où là, on a eu des détecteurs de métaux qui avaient découvert des objets anglo-saxons, puisque c'est aussi les détecteurs de métaux en Angleterre. Ce qu'ils cherchent beaucoup, ce sont les trésors anglo-saxons, hein, les trésors vikings, des bijoux en or, etc. Ça, c'est le rêve, c'est trouver un véritable trésor en or ou en argent, donc des bijoux en or, des pièces en argent qui avaient été faites avec l'accord du fermier. Donc le fermier a donné son accord. Seulement, les deux détectoristes n'ont pas déclaré leur découverte au propriétaire du terrain. Enfin, 5 semaines plus tard, ils ont seulement parlé des bijoux, ils n'ont pas parlé des pièces d'argent qu'ils avaient découvertes. Ils ont vendu ces pièces d'argent sur Internet, hein, et là, Enfin, heureusement, ils se sont fait attraper, et ça, je trouve que c'est très bien, parce qu'il faut aussi des exemples pour montrer que si on ne respecte pas les règles, on peut se faire envoyer en prison, on peut aller en prison pour vol, parce que c'est du vol. Et dans ce cas, donc, les deux détectoristes ont été condamnés à 6 ans de prison pour vol, et celui qui avait coopéré pour le recel a aussi été condamné à 3 ans et demi de prison. Donc aussi dire que certes les règles sont peut-être plus relaxes en Angleterre, mais il y a quand même des sanctions, et ça c'est quelque chose qui doit quand même aussi être beaucoup publicisé, dit, parce que il faut pas croire que on peut chercher des trésors, on peut découvrir des trésors et avec impunité. Il y a des règles et il faut les respecter, et c'est ça qui est très important.
Et puis, vous, en Angleterre, vous observez aussi un certain business autour de ces chercheurs de trésors. Il y a des clubs, mais il y a aussi des ventes de matériaux, il y a des magazines. Ça suscite aussi toute une communauté et tout un environnement, vous diriez ?
Il y a une grande communauté, mais l'avantage aussi de ces communautés, c'est qu'il y a normalement, donc les bons, il y a les bons et les mauvais détecteurs de métaux. Les bons détecteurs de métaux respectent le code de déontologie qui a été rédigé en accord avec le British Museum, par exemple, et qui encourage ces détecteurs de métaux à déclarer leur découverte, qu'elle soit de grande valeur ou de petite valeur, pour qu'on puisse l'enregistrer sur cette base de données. Donc c'est aussi, il y a beaucoup un élément de formation de ces détecteurs de métaux, des jeunes et des moins jeunes, hein, parce qu'il y a des trésors qui sont trouvés par des enfants de 6 ans, des fois on voit ça sur la une des journaux, le plus jeune détecteur de métaux, première sortie, a découvert, je ne sais pas moi, des pièces en argent ou des pièces en or.
C'est la chance du débutant.
Il y a aussi beaucoup d'échanges romains. Donc oui, c'est l'avantage, c'est qu'il y a un code et il y a une structure. Aussi un lobby très important. Mais bon, et si le code est respecté, alors on peut préserver aussi les connaissances archéologiques qui vont avec la découverte du bien. Bon, certes, c'est dans un champ, comme l'a dit Monsieur Perrin, il y a plus beaucoup de provenance autour. Mais bon, dans d'autres sites, il peut y avoir une importance archéologique. Et il faut aussi que les détecteurs de métaux acceptent de partager leur découverte.
Et puisqu'on arrive à la fin de cette émission, on va terminer avec ce verset de Matthieu que peut-être nos auditeurs ont déjà entendu, ou en tout cas auquel ils ont déjà pensé, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est Matthieu 6, verset 21, ou c'est aussi dans Luc, chapitre 12, verset 34. Ben oui, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Moi, je voudrais que vous réagissiez à cette phrase. Finalement, pour vous, le trésor, c'est quoi ? C'est qui ? Allez, voilà. Didier Perrin.
Pourquoi moi en premier ?
Ah, mais oui, mais parce que je vois que vous souriez et que vous hochez de la tête.
Non, je suis d'accord, bien sûr, mais
c'est votre trésor, le plus cher, et oui.
Ah, mon trésor le plus cher ? Je ne sais pas.
Ah oui, question pas facile. Julien Alvarez, non, peut-être. On vous laisse réfléchir, Didier.
Vous voulez chercher la réponse, Didier.
C'est ça.
Non, mais je vais me répéter. C'est en effet quelque chose qu'on a tous en nous. Et de toute façon, enfin, après, je vais dire un peu quelque chose, une platitude, mais c'est vrai qu'on parle souvent de la quête et de l'arrivée, quoi. Donc la question, est-ce que c'est pas la même chose? Est-ce que c'est pas finalement cette quête qui est intéressante, les recherches en amont, et puis quelque part cette part de voyage déjà. Partir dans les archives, lire un livre, c'est déjà voyager. Finalement, qu'on trouve ou pas, ça devient presque accessoire.
Mais oui, aimer faire ce qu'on aime. Didier Perrin, vous complétez?
Ah, complètement, mais je merci pour la piste. C'est tout à fait, je suis en adéquation avec ça. C'est plus le temps qu'on passe à faire des recherches, et Dieu sait si j'en fais, par exemple, sur Gallica pour retrouver les traces des objets que j'ai trouvés. Et oui, c'est la découverte de choses au travers de ce voyage qu'on fait dans le passé, dans les archives du passé. Et ça, je suis d'accord, tout à fait. Et j'incite beaucoup à aller sur Gallica, qui est un trésor on a un accès à un trésor véritable. On n'en parle pas assez. Gallica étant la partie informatique de la Bibliothèque nationale de France. Et on a aujourd'hui 10 millions, ils viennent de passer d'ailleurs le chiffre de 10 millions d'ouvrages disponibles qu'on peut regarder. Ouais. Je voudrais juste
10 millions.
parler enfin, montrer ceci. Je ne sais pas si on le verra. Ça s'appelle L'or du bout du monde. L'or du bout du monde, ça doit parler. C'est une bande dessinée qui a été faite. Et le thème principal, c'est donc la recherche d'un trésor. Mais le personnage qui a servi, c'est Pierre Hénos, qui était notre Indiana Jones français, et qui est décédé fin 2021, et qu'on devait recevoir sur notre chaîne. On était parti pour aller le voir, et malheureusement, il est décédé un peu tôt pour nous. Et Pierre Hénos, intéressez-vous à lui, vous verrez, il a une histoire extraordinaire.
Alors, si on est dans les histoires, on poursuivra. Je rappelle que justement, la chaîne dont vous parlez, c'est la chaîne Chasseurs de Trésors, c'est sur YouTube. Vous êtes vous-même détectoriste Didier Perrin et ancien policier. Merci à vous. Et puis, merci Julien Alvarez, fondateur des éditions du Trésor, éditeur aussi d'une chasse au trésor que vous organisez dans toute la France, le Trésor de l'île au crâne. Merci aussi à vous, Sophie Vigneron. Vous êtes professeure à la faculté de droit de l'université de Kent et co-directrice du Centre du patrimoine et spécialiste du droit du patrimoine. On retrouvera vous écrit dans un ouvrage à paraître un dictionnaire justement du dictionnaire comparé du droit du patrimoine.
Merci Madeleine, merci à tous, et dans un instant on va se mettre dans la peau des archéologues. À tout de suite.